Le musée Galura. Le musée de la Femina Agabodora. Une maison typique de la Galura, abrite le musée Galura avec son parement de façade en granit et ses plafonds en bois, parfaitement restaurés. Il s'agit d'une reconstruction très fidèle de la maison traditionnelle de la Galura. Des pièces dédiées aux typiques activités traditionnelles et à l'environnement domestique, la cave, l'entrepôt, la cour, la salle à manger, la cuisine, la chambre à coucher, le traitement de la laine et le laboratoire du liège. Les chambres ont été recréées avec soin et souci du détail, ce qui les rend vivantes. Dans ses murs, le musée conserve plus de 7000 pièces datées de la fin du XVe siècle à la première moitié du XIXe siècle. Parmi ces pièces, la plus précieuse de toutes, le seul exemplaire reconnu du marteau de la Femina Agabodora. La cave. La culture de la vigne est depuis toujours une des activités importantes de l'Ura. Dans cette pièce, on peut voir, sous leurs formes les plus anciennes, les instruments qui ont été utilisés pour le travail de la vigne et la production du vin. Sur le mur de gauche, il y a deux pulvérisateurs portables, l'un est en cuivre et l'autre beaucoup plus ancien et rare en bois. Plusieurs modèles de soufflets et de soufflets à pompe. En bas, la boîte à outils de greffage est pour la taille. Divers paniers tressés pour contenir le raisin de table. Pour la vendange, des récipients en liège, de forme ovale et rectangulaire, que l'on portait sur l'épaule, rempli du raisin des rangs de vigne jusqu'à la maison de vigne. Le cépage Nebbiolo, importé du Piémont à la Sardaigne à la moitié du XIXe siècle, est cultivé exclusivement à l'Ura. Sur le mur en face de nous, il y a des bouteilles de vin Nebbiolo de production privée et artisanale. Parmi celles-ci, vous pouvez remarquer la date sur l'étiquette 1891. Au centre de ce mur du Nebbiolo produit dans les caves de l'Ura. Nous noterons au milieu, une bouteille qui n'a qu'un B, dans le nom Nebbiolo. Sur le sol, le récipient en bois, ou à pieds nus, les raisins étaient foulés. Au centre, un ancien pressoir pour le marc de raisin qui remonte à 1400. Devant celui-ci, une pompe à piston qui servait à transvaser de grandes quantités de vin, accompagnée d'une boucheuse. À droite du pressoir, un alambic à condensateur pour la production de l'eau de vie, appelé en Sardaigne, filu ferru, fil de fer. L'origine du nom remonte à des temps anciens, pendant les années du Royaume d'Italie. Une loi a été formulée, la loi Sella de 1874, selon laquelle, pour la production de spiritueux, il était nécessaire d'avoir une autorisation et en plus de payer une taxe, c'est pourquoi en Sardaigne, on distillait clandestinement. Pour éviter la confiscation des bouteilles. Les alambics étaient cachés sous la terre, et on prenait bien soin de relier un fil de fer de l'alambic au goulot de la bouteille, puis on laissait sortir un fil de fer de terre de quelques centimètres, afin de pouvoir les repérer et ainsi les récupérer facilement. Sur la droite, la traditionnelle barrique pour la conservation du vin, posée sur des supports en granit. Attaché et suspendu au plafond, le filtre pour la production du vin doux, en particulier le Moscato, Muscat, qui est encore vinifié aujourd'hui à l'Ura, il est épais, clair et extrême doux. L'entrepôt. Agriculture et élevage de moutons. Dans cette pièce sont représentées les activités agricoles et pastorales qui constituaient la principale source de subsistance de la famille de la Galura. Sur le mur de gauche, des faux, des râteaux en bois, apportés par les charbonniers toscans, Toscane au début des années 1800, et utilisés pour la production du charbon végétal trident, fourche et pelle pour la basse-cour. Les harpons et les pinces pour la pêche à l'anguille, activité très populaire à l'Ura jusqu'à la fin des années 40. Sur le mur au centre, des ciseaux pour la tonte des moutons, des ruches en liège pour l'élevage des abeilles, parfaits pour contenir les nids, des serpes et serpettes. Des haches et hachettes de divers modèles et de tailles différentes, faisselles, moules et moules à fromage en métal, fer, aluminium, bois, jonc et osier. Sur le mur à droite, en haut, des pièges à oiseaux, bois fourchu pour tendre, saler et tanner la peau des renards, des cloches pour les moutons, des récipients pour la collecte et le transport du lait. Au sol sur la gauche, une meule qui était poussée par un âne, meule pour produire la farine, attachée aux joues permettait, à travers la poutre en bois, le mouvement de rotation de la pierre supérieure de la meule, le blé dans le récipient passait entre les deux pierres et ainsi était moulu par ce mouvement. Une charrue particulière pour apporter de la terre au pied de la vigne, elle était tirée par des bœufs. Après le labour, cette charrue avait la fonction de rapprocher la terre au pied de vigne ou aux légumes dans le jardin potager. Sur la droite, un treuil qui aidait à la production du fromage, le lait contenu dans le chaudron était chauffé avec la flamme sous le récipient et le mouvement du bras du treuil faisait que le chaudron pouvait être levé ou baissé, afin de permettre une température toujours constante de 38,5 degrés. À cette température, la crème du lait était enlevée pour être placée dans les moules prévus à cet effet, pour le fromage, ou pour les étapes suivantes, dans les faisselles, pour la ricotta, fromage blanc et frais. Autour du treuil, des filtres et autres récipients pour la collecte, le transport et la transformation du lait. Sur le mur derrière, nous pouvons voir des selles, même certaines de petite taille, pour âne et chevaux. Nous remarquerons une selle de petite taille de 1500, non pour chevaucher mais pour le remorquage. Elle était fixée sur le dos du cheval afin de pouvoir y accrocher la charrue ou le chariot pour le remorquage. La cour patio. Charretier, chariot. La cour était l'espace dédié aux charretiers, conducteurs de chariots tirés par des bœufs. En Sardaigne, ils utilisaient deux types de chariots, le traditionnel avec deux côtés latéraux, par conséquent ouvert à l'avant et à l'arrière et dont le plancher était tressé de fines branches, et l'autre est celui présenté ici, satin barella. Contrairement au premier, celui-ci est formé d'un caisson, toujours en bois, fermé sur les quatre côtés, hermétiquement, et qui permettait de transporter le sable, la terre, la chaux, les céréales et tout ce qui ne pouvait pas être porté dans le chariot traditionnel. Son nom, timbarella, vient du sarde, timba, tombeau, parce qu'il était utilisé également pour le transport des morts. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, ce moyen de transport s'appelle carreau funèbre, corbillard, c'est précisément parce qu'ils utilisaient un chariot tiré par des bœufs, char funèbre. La timbarella, le chariot, à partir de 1800 jusqu'aux années 20, était le moyen de transport avec lequel les habitants de Lura, Lurésie, faisaient le tour de la Sardaigne pour vendre les produits locaux. Commerce qui commence par la vente de sa berita, traditionnelle béret des Sardes. À cela s'ajoute la vente des autres produits, comme le liège, l'eau de vie, le touron, nougat, les tissus et en particulier, les armes, fusils et pistolets conçus par les très habiles artisans de Lura. La timbarella, le chariot, était équipé d'éléments nécessaires comme la hache, fixée sur un côté du chariot et qui permettait de réparer les pièces du chariot qui pourraient éventuellement se casser durant le voyage. Un autre élément était le récipient en liège pour la réserve d'eau potable, indispensable pour les longs voyages. Dans les années entre 30 et 40, les réflecteurs, les lampes, au carbure ou à pétrole, devenaient obligatoires ainsi que la plaque d'immatriculation fixée sur le côté à droite, l'assurance, dont la marque était affichée sur le joug. Sur le mur central, il y a deux cages à oiseaux, sur la petite fenêtre, une carafe d'eau, une sculpture en granit, des pelles et des balais pour le four à bois.